Bonjour tout le monde, on va quand même commencer, même si Pierre n'est pas là, parce que on va quand même pas vous faire patienter toute l'après-midi. Normalement, il est très, je dirais, ponctuel, puisqu'il est parti en courant en me disant « je vais vite manger pour revenir à 14h ». Il est peut-être en train de errer dans les jardins, je ne sais pas. Merci à vous d'être avec nous aujourd'hui. Merci donc à Isabelle Bautian, Anne-Catherine Haute. Merci donc à Olivier Roman de nous accompagner et donc merci à Pierre Bordage, l'immense invisible, mais quand même, remercions-le de passer et de nous consacrer une heure de son temps, même si c'est... Excusez-moi.
Je pense qu'il est là.
On l'aura par téléphone.
Un petit Skype.
Pierre, vas-y, tout le monde t'écoute. Il n'y a pas de souci. Ok, pas de problème. On va faire un tendu ou un mot croisé. Non, non, t'inquiète pas. Oui, mais...
17h30.
À peu près, voilà. Pour l'apéro. Non, il nous a dit 10 petites minutes. Donc, bon. On ne va pas le stresser non plus, quand même. Hein. Alors, bah, écoutez, moi, je suis ravi, en fait, d'être avec vous aujourd'hui pour parler donc d'histoire de couple, parce que c'est vrai que c'est quand même important. Alors, c'est important, a fortiori, dans la bande dessinée. Ça l'est aussi, de mon point de vue, au niveau du roman, entre, je dirais, le couple auteur-illustrateur. Mais voilà, je vais vous laisser un petit peu vous présenter, et puis savoir un petit peu voilà, comment s'est articulé le couple et expliquer un petit peu, voilà, on parlait cuisine tout à l'heure, donc excusez-moi du terme, mais c'est vrai que c'est quand même de ça dont il s'agit par rapport à l'éditeur, parce que, entre guillemets, le public consommateur de bande dessinée, et Dieu sait qu'il y en a, honnêtement, on ne sait pas en fait comment ça se passe. Je vais vous poser certainement des questions de néophyte de base, mais c'est vrai qu'une bande dessinée, elle se fait rarement tout seul. Je dirais le couple, même si c'est souvent un couple le plus improbable possible, au minimum, c'est l'auteur-dessinateur quand il est tout seul et l'éditeur. Alors des fois, ça match ou ça match pas. Mais c'est vrai que des fois, il y a quand même des couples plus intéressants, certainement un petit peu plus cohérents et plus passionnés et passionnants, qui sont les auteurs et celui ou celle que j'appellerai l'illustrateur quand même, en fait. J'aime beaucoup ce mot, donc... Alors donc Isabelle ou Anne-Catherine, si vous pouvez nous parler un petit peu de déjà comment entre guillemets vous avez commencé. Je crois que c'est donc Isabelle qui a en fait finalement commencé un petit peu la première dans le métier. Ou est-ce que je me trompe?
C'est plutôt pour toi la question du coup.
Oui, bah en fait quand alors je sais plus exactement en quelle année on a commencé à bosser ensemble, mais oui j'avais déjà eu des deux albums, je crois, deux ou trois albums édités chez Dargo et une maison d'édition qui s'appelait Emmanuel Proust. Et en fait, je cherchais à continuer à faire de la bande dessinée vu que ça commençait pas si mal que ça. Et tout bêtement, je suis allée sur un forum qui s'appelle Le Café Salé. Que enfin, les amateurs de graphisme connaissent souvent. Et en fait, il y a plein de dessinateurs sur ce forum, des amateurs, des professionnels. Et j'ai juste posté une annonce.
Et la section scénariste en fait, venait d'ouvrir sur le Café Salé, donc avec des appels. J'ai un super projet, il faut juste quelqu'un pour le dessiner. Moi, à cette période-là, je bossais encore dans le dessin animé, mais ma vocation de prime jeunesse, c'est quand même la BD. Et comme j'avais vu ce que tu avais fait avec une autre autrice et que l'univers me plaisait bien avec Zaël, j'étais allée regarder, très intéressée, les pitchs qu'elle a proposés. Donc elle avait fait une note où elle disait « voilà, j'ai quelques histoires et voici l'accroche ». Et il y en a une qui m'a bien tentée, donc j'ai fait quelques dessins. Je te les ai envoyés sur ce que ça m'inspirait. Et puis, ça t'a plu. Du coup, on a fait « faisons un dossier ». Et voilà... Après, ça a pris du temps à se mettre en route parce qu'on bossait toutes les deux encore parallèlement. On avait un autre boulot à côté. Donc, il fallait trouver le temps de vraiment réaliser un dossier. Mais au final, premier dossier, il a été pris. Quoi.
Et du coup, le premier éditeur démarché, donc c'était finalement
Okama. C'était peut-être pas le premier, Okama.
Avait démarché plusieurs éditeurs. Alors, je ne sais pas si j'avais peut-être dû envoyer en premier aux éditeurs avec qui je travaillais déjà, mais comme c'était surtout Dargo, ce n'était pas du tout un projet pour eux. Donc c'était plus par correction, histoire de présenter en premier. Mais très très vite, on avait envoyé à plusieurs éditeurs à la fois. On avait eu quelques refus. Des refus plutôt sympathiques, on va dire.
Bienveillants,
c'était assez bienveillant, avec des réponses circonstanciées. C'était surtout, ce n'est pas forcément notre truc, ou juste moi. moi perso je le sens pas, je saurais pas le défendre. Bon, ce qui est toujours un peu frustrant quand on vous dit ah c'est vachement bien ce que vous faites, je le prends pas. Mais bon, au moins, ça arrive assez souvent. Et mais bon, ça avait l'air sincère en l'occurrence. Et Ankama en fait était en train de se lancer dans la bande dessinée. Enfin, ils avaient déjà les mangas adaptés de Dofus. Je sais pas si c'est Dofus ou Dofus qu'il faut le prononcer.
Moi je dis Dofus, mais
Dofus, allez, allons pour Dofus.
Je suis pas une spécialiste.
Et donc ils voulaient lancer faire de la bande dessinée plus sur format entre le format franco-belge et le comics. Et ils avaient lancé deux collections, dont la collection Araignée, qui était beaucoup sur du fantastique, soit un peu intimiste, soit un peu intello, qui faisait plus roman graphique intimiste, voilà, en restant dans le fantastique. Et ils ont été intéressés par Havre et on s'est rencontrés, on a discuté, et ils ont accepté. Au début, on était parti sur un autre format de franco-belge classique et ils nous ont proposé de faire des gros formats comics et qui étaient beaucoup plus intéressants à la fois d'un point de vue scénaristique et je pense graphique.
Narrativement, c'était pas mal, mais c'était des 90 pages, donc on a fait une trilogie de 3 tomes de 90 pages.
Oui, parce qu'il faut quand même préciser que votre premier entre guillemets bébé, c'est quand même une histoire de zombie.
Alors ça, c'est vraiment une grosse fausse piste, en fait, cette histoire de zombie. Parce que le titre du premier album, c'est La sorcière et le nécromancien. Donc déjà, juste sur le titre, on ne pense pas forcément à du post-apocalyptique. Isabelle aime bien brouiller les pistes. C'est pour ça que j'aime travailler avec elle. en fait, on dévie très vite sur autre chose. C'est vraiment du post-apo, quoi. Donc des personnages dans un univers ravagé par un cataclysme dont on ignore la source. En revanche, il se trouve que dans cet univers qui n'est pas le nôtre, il y a des gens qui ont des pouvoirs particuliers, donc ce fameux nécromancien, qui est un chiptique, mais il se trouve juste qu'il sait réveiller les cadavres. Quand on est le dernier survivant, ça peut être utile, ça, logistiquement c'est pas mal. Et il pense être un des derniers survivants, arrive une femme, la sorcière, qui elle est capable de ressentir des sentiments et aussi de s'en servir des autres gens, qui elle va le sortir de sa retraite pour partir en quête de l'origine du cataclysme. Voilà le point de départ de Havre. Que je vous vends très bien, malheureusement.
Oui, parce qu'il n'est plus édité pour l'instant. Mais on va bientôt... on a eu des soucis éditoriaux, et on va bientôt, nous, le rééditer en intégrale. Mais maintenant, on travaille sur un autre livre merveilleux.
Voilà.
Et on va rester un petit peu sur votre binôme avant d'attaquer celui d'Olivier et de Pierre. On va essayer de... Et en fait, comment ça se passe? Quelles sont les premières questions? Donc, quand on est une scénariste, justement, enfin, de la manière dont tu as cherché, proposer à un dessinateur, à une dessinatrice, quelles sont les premières appréhensions? Savoir si effectivement l'univers va coller graphiquement à ce que toi tu avais dans la tête, et ensuite humainement, parce que là j'ai l'impression qu'après ça a été plus une aventure humaine que simple travail.
Je pense qu'il faut juste... on voit tout de suite si l'idée de base plaît au dessinateur ou si le dessin va plaire au scénariste. Après, moi, je suis assez... c'est positif, c'est super et insupportable à la fois pour les dessinateurs. C'est que moi, je suis vraiment sur l'écriture. J'ai pas une immense imagination visuelle. Donc d'un côté, je pense que c'est assez cool pour les dessinateurs parce que je les laisse vraiment. Je donne les grandes lignes de mon univers, les trucs sur lesquels je veux vraiment pas transiger. Mais après, c'est vraiment open bar. Faites-vous plaisir. Et puis même des fois, moi, j'aime bien m'inspirer de ce que les dessinateurs ont fait sur les croquis, peut-être pour développer un peu mon univers. De l'autre côté, je sais que j'ai le défaut du coup de pas forcément toujours donner tous les éléments dans le dessinateur aurait besoin, mais je travaille.
Moi, j'ai évolué par rapport à ça, parce que dans un premier temps, moi, c'était ma première collaboration j'étais un peu prise entre je suis très scolaire et je veux faire tout ce qu'Isabelle me dit, notamment au niveau du découpage, parce qu'à l'époque, elle me faisait donc un scénario avec bandeau 1, bandeau 2, bandeau 3, puis dans le bandeau 1, case 1, case 2, case 3. Avec les dialogues, tout ça.
J'avais dit qu'elle n'était pas obligée de le suivre, hein. Je tiens à le préciser.
Non, mais moi, je débutais, je voulais bien faire, j'étais pas très sûre de moi. Et rétrospectivement, sur le premier tome, c'est un des défauts narratifs. Et encore, je trouve que ça va, ça tient la route. Mais il y avait parfois peut-être mieux à faire, quoi. On apprend. Et par contre, sur vraiment parfois les descriptions d'univers, Isabelle, c'est super sec, en fait. Pour l'environnement, les personnages, ça va. Même si tu les décris pas trop physiquement, mais ça ne me pose pas trop de problèmes. Les images viennent vite quand il y a des dialogues. Les caractères, tu les décris beaucoup. Les personnalités, donc ça vient. Mais je ne suis pas une grande décoratrice, hein, on ne va pas se mentir. Du coup, je n'ai pas de facilité pour ça. Et donc, je m'en suis. Au début, ça me frustrait un peu. Je te renvoyais des mails. Tu peux, mais ça se passe quoi ? À quoi ça ressemble ? Qu'est-ce que tu as en tête et tout. Après, au fur et à mesure, j'ai profité de la liberté et me dire bah, je vais faire des trucs soit qui m'arrangent, soit qui me font triper, quoi, en fait. Un peu plus ben, sur Versipel, je fais encore plus, en fait.
Bon, même... Je ne fais plus de découpage du tout sur Versipel. Enfin, je fais un découpage à la page. Je dis voilà ce qui se passe à la page. Quand j'ai une idée de mes en scène, je la dis. Mais en fait, maintenant, c'est ça. Je pense qu'on a vraiment appris à bien se connaître. Mm. Et je pense qu'on arrive à s'inspirer l'une l'autre. Et que dans les non-dits, les non-dits de l'une et l'autre arrivent à inspirer.
Mais en fait, je sais quelle est la marge de manœuvre que tu me donnes, qui est très grande en fait. Et puis, ben, maintenant, je prends plus ça comme un espace de liberté que comme je te lâche en plein vol, quoi. C'est et puis bon, bah après, ça reste que de la BD, on peut en parler, quoi. Je veux dire, je commence par faire des esquisses, donc on peut toujours revenir en arrière. Je veux dire, on communique sans heurts, quoi. Il y a pas de problème.
L'inspiration mutuelle, c'était ma deuxième question.
Ouais.
Justement.
Je pense que c'est ça.
Quand tu vois sortir le premier tome, est-ce que du coup tu te dis, tiens, sur le deuxième, sur la suite de l'histoire, à quel moment, chronologiquement déjà, comment vous avez travaillé? Si par exemple tout le scénario du premier était fait avant que tu puisses attaquer le dessin, et est-ce que du coup la sortie visuelle du premier t'a influencé sur peut-être l'élaboration du décor ou du non-décor pour le deuxième tome, par exemple, des choses comme ça?
Le truc, c'est que donc on communique tout au long de la réalisation de l'album. Donc Isabelle voit les pages se faire, elle voit pas tout d'un coup, quoi. Dans un premier temps, donc moi, je reçois son scénario. Si j'ai des questions, je lui pose. Si parfois je note une incohérence, je suis une première relectrice aussi, quoi. Donc on remet des trucs où qu'il manque une page. Ça nous arrivait deux fois. Je dis, alors Isabelle, j'arrive à 89 pages. Merde, j'ai numéroté la même deux fois.
Je jure que ce n'est qu'avec elle que ça m'est arrivé. deux fois.
Et des petits trucs comme ça. Donc il y a ce premier retour vraiment juste de lectrice. Puis après, j'entame un pré-découpage, un storyboard, vraiment. Je vais au-delà du bonhomme patate parce que comme c'est assez cérébral et psychologique, je travaille beaucoup les expressions des personnages et je veux être sûre d'avoir bien compris les intentions d'Isabelle. Donc du coup, j'envoie des trucs déjà assez dessinés au fur et à mesure. Comme ça, il y a un retour direct. Et maintenant, j'essaie vraiment... Sur Havre, c'était différent parce que c'était aussi la façon dont on était rémunérés. C'était toutes les 10 pages. Donc, il fallait que je finisse 10 pages pour avoir des sous à chaque fois, couleurs et tout. Donc, je faisais des lots de 10 pages ou un peu plus en fonction des séquences, d'ambiance, tout ça. Maintenant, je fais tout le découpage d'un coup pour rester sur ma lancée. Après, je fais tout le noir et blanc d'un coup, puis toute la couleur. Parce que c'est à chaque fois une dynamique dans laquelle je mets du temps à m'installer. Donc, c'est vrai que c'était avantageux financièrement à chaque fois les 10 pages. Mais aussi, à chaque fois, il fallait que je remette la machine en route parce que ce n'est pas du tout la même démarche. Et du coup, toi, tu vois le truc se faire. Et je pense que ça te fait, avant même qu'on attaque le tome qui suit, tu cogites ça en amont et avant ton écriture du tome suivant. Mais sur les personnages, même, c'est vrai que sur Havre, je me souviens, la fin du premier tome, on entrevoit des personnages de loin et en fait, tu m'avais rien donné, quoi. Tu m'as dit, ouais, tu mets des jeunes gens un petit peu, l'air de chercheurs, enfin tout ça. Et puis bon, je fais pouf, pouf, pouf. Puis à la fin, tu les as un peu construits en fonction de leur physique, quoi, enfin des allures qu'ils avaient, parce que c'est des personnages qui sont devenus importants dans la suite.
Et la présence dans le binôme, je dirais, du troisième partenaire avec l'éditeur, donc, est-ce qu'il y a par exemple eu peut-être des cases de modifier ou des pages même de refuser ou en disant vous allez un peu trop loin ou...
C'était alors le début de Havre, c'était une catastrophe parce qu'en fait moi je pensais je lance mon truc et puis je commence à faire toutes mes pages, quoi. Enfin, j'en ai fait une trentaine, donc un tiers du bouquin, j'envoie ça et genre il y avait tout à refaire dedans, quoi. Déjà la communication était pas géniale, je veux dire.
On a un peu essuyé les plâtres chez Ankama, ils étaient en train de lancer leur collection BD, donc eux-mêmes étaient en train d'apprendre pendant que nous on était en train
d'apprendre la gestion d'auteurs, de jeunes auteurs surtout. Et donc après j'envoyais tous les trucs au fur et à mesure, avant de finaliser. Je suis devenue hyper prudente et ça dépend parce qu'on on a changé, enfin au sein de la maison d'édition on a changé d'éditeur en cours de route. Donc au début on avait un premier interlocuteur, après on a eu, et je peux dire son nom parce qu'il devient auteur et qu'il il fait des trucs vachement bien et que j'ai beaucoup aimé bosser avec lui, c'est Jonathan Garnier, qui est scénariste de BD, donc il nous a accompagnés sur les deux derniers tomes de Havre, et en fait globalement comme j'ai progressé sur mon découpage et le dessin à proprement parler, il n'y avait pas énormément de redites, quoi. Parfois Il me conseillait comme de corriger une perspective, ce qui n'est pas mon point fort. Et je lui disais, oui, d'accord. Parfois, on avait des divergences sur de la mise en scène. Il y a des trucs qui me disaient, je trouvais pertinent, du coup, je changeais. Et d'autres fois, j'ai défendu mon beefsteak parce que je trouvais que j'avais des raisons de le faire. Puis, il n'est pas obtus, quoi. Il disait, non, ça marche aussi. Donc, si j'avais assez d'arguments, au bout d'un moment, on me lâchait la grappe et je faisais comme je voulais, quoi. Et c'est un peu pareil maintenant chez Akileos. Parfois, il y a l'éditeur qui va me faire une suggestion. Et voilà, je suis pas fermée. Il y a des moments où je vais dire, ah ouais, c'est vrai, t'as raison, cette case, elle sert à rien, on la vire, quoi. Ça me fait gagner du temps. Ou d'autres fois, je vais défendre un peu mordicus mon point de vue, quoi. Enfin, voilà, parce que je me dis, j'ai une bonne idée, je trouve qu'elle tient la route, je vais la garder.
Entre Havre et Versipel, est-ce que tu gagnes en rapidité, j'imagine, et
pas nécessairement.
Et combien de temps pour un album, du coup?
Havre, de travail, pas de parution. Alors déjà, Havre, c'était une grosse année, c'était 90 pages. Là, c'est toujours, on va dire, une grosse année, mais il y a 30 pages en moins. Sur le prochain, il fait 60 pages, le prochain en fait 74, le tome 2. Mais je suis toujours sur la grosse année. Après, moi, comme dessinatrice, je reste laborieuse. Je n'ai pas énormément de recettes qui me font gagner du temps. Et j'ai l'impression qu'à chaque fois, je réapprends tout. Donc, ce qui est un peu désespoir des gens qui travaillent avec moi, parce que je ne suis pas rapide.
Et alors, est-ce que tu nous as bien vendu Havre tout à l'heure? Est-ce que tu peux nous vendre Versipel, du coup?
Versipel, j'ai vachement plus de mal. Je vais laisser Isabelle se dépatouiller. Pourtant, j'aime beaucoup, mais j'ai peur de trop en dévoiler.
En même temps, on va accueillir Pierre qui arrive. Bravo. Bienvenue. Je les ai embêtés, puis après, je vous embête tous les deux.
Je l'ai fait exprès pour être applaudi. Hein.
Donc Versipel.
Ah oui, pardon, Versipel. Versipel, on reste. Havre était à cheval entre la science-fiction, le fantasy et le fantastique, et là on reste un peu à cheval entre les genres. Je pense que ça va être classé en fantasy par beaucoup de gens parce que c'est, moi je dis que c'est un conte horrifique et poétique. Techniquement, c'est plus du fantastique parce qu'en fait ça se passe au temps des Vikings et ça se passe dans un Moyen Âge qui est quand même assez historiquement carré. Je vais essayer. On brode, mais on a essayé de.
Il n'y a pas de casque avec des cordes.
Voilà,
des trucs
on a essayé
ça,
de faire gaffe à ces choses-là et puis d'avoir, d'avoir un petit bagage historique. Et c'est un conte horrifique qui se passe. Ça revient sur les origines du mythe du loup-garou. Versipel, ça vient du latin et c'est, étymologiquement, ça veut dire qu'il retourne sa peau. Littéralement. Donc c'est très ragoûtant. Et en fait, j'ai intégré dans ces origines du mythe une légende qui se retrouve dans beaucoup de campagnes européennes, notamment en Auvergne, mais dans beaucoup d'autres campagnes, qui est la légende du meneur de loup, qui est ce personnage, cet humain, ce sorcier, qui est capable de parler aux loups, soit de les contrôler, soit de devenir lui-même un loup, selon les légendes. Et j'ai mélangé donc, du coup, ce mythe originel du loup-garou avec cette légende. Et en fait, c'est une histoire de vengeance. Un viking, en fait, dans la société viking était une société marchande et guerrière. Un des personnages de Versipel est un homme qui est, enfin, c'est un guerrier, mais il est surtout intellectuel, sensible et tout ça. Il n'a jamais réussi à trouver sa place. Et il va tuer le sorcier, le meneur de loups, pour lui voler la peau du Versipel qui, croit-il, permet de contrôler son pouvoir. Sauf que lui, quand il met sa peau, se transforme en une espèce de loup-garou et devient complètement sauvage, se laisse aller à tous ses instincts bestiaux. Et le fils de ce meneur de loup veut récupérer sa peau à la fois pour venger son père et pour empêcher toutes les catastrophes qui vont découler de ça. Et en fait, c'est vraiment une histoire. Bon, il y a des scènes assez violentes, mais c'est vraiment pour une histoire qui parle de cette balance entre l'intellectualité et l'animalité. À travers tous les personnages de l'histoire.
C'est tous des marginaux,
fait. Tous sont des marginaux et tous ont ce conflit entre leur part animale et leur part intellectuelle.
Parce que le fils du meneur de loup, on ne l'a pas dit, mais c'est qu'il est à moitié loup. En fait, il a été engendré par le meneur de loup quand il était sous forme de loup avec une louve. Donc il ne sait pas s'il est humain, il ne sait pas s'il est loup, il faudra qu'il fasse un choix à un moment donné dans sa vie. Il est à mi-chemin des deux mondes, il est accompagné par Randy, qui est une Lochnir, c'est une espèce de soigneuse un peu magicienne, qui pareil vient en périphérie des villages, parce que elle a une espèce de pouvoir un peu secret. On la respecte, mais on la craint aussi un petit peu, pas à même mesure qu'un meneur de loup, mais elle aussi, elle a une place à trouver qui n'est pas évidente. Donc c'est que des personnages comme ça qui ont ces conflits-là à mener, quoi, et une place
à
trouver.
C'est une histoire très allégorique.
Ouais.
Voilà. Bon, on va découvrir ça rapidement, j'espère. Et bah puis oui. suivre la suite. Et puis en attendant, donc, la réédition de Havre.
Oui, soit par un éditeur. De toute façon, on a un éditeur qui est vaguement intéressé, mais on attend de voir. Et au pire, de toute façon, d'ici un an, on la réédite, nous, vu qu'en auto-édition.
Voilà. Bon, je vais un petit peu embêter vos collègues, et puis vous n'hésitez pas à les interrompre aussi. Donc, merci Pierre, bonjour, bienvenue. Merci Olivier d'avoir patienté. Donc, tous les deux, vous avez un parcours, disons, dense, très très dense, épique. Dans de multiples domaines. Alors, bon, Pierre, effectivement, tu es connu pour tes multiples romans et nouvelles et plein d'interventions, mais il y a aussi de la pièce de théâtre, il y a aussi de la novélisation, il y a aussi donc du scénario Kaena, par exemple, le film. Il y a les Chroniques de l'ombre aussi, donc scénarisation pour. À l'époque, c'était quoi ? C'était du cross-média presque, une espèce de bande dessinée, ce qu'on dirait aujourd'hui sur multiples supports, hein, c'était peut-être un peu avant-gardiste. Et Olivier, donc tu as travaillé toi en bande dessinée beaucoup avec donc Richard Nolan, Jean Rey aussi. En premier, j'ai envie de te poser en premier une petite question, un petit peu, parce que est-ce que c'est plus facile de travailler en duo avec un auteur vivant ou un auteur mort ?
Attends, qui est vivant et qui est mort ? Qui est vivant et qui est mort ? Non, parce qu'en fait... C'est sympa comme question. Ce soit pas moi pour la poser à moi. Non, mais en fait, en ce qui concerne Harry Dickson, Nolan a repris simplement le background, le héros, les noms des héros et tout, et puis il a recréé des histoires. Hein. On n'a pas transcrit les romans.
D'accord, c'était pas une adaptation. Hein. Ouais.
Donc j'ai eu affaire à Nolan et pas à Jean
Rey. La partie vivante de Jean Rey.
Voilà, exactement.
Alors comment ça s'est fait tous les deux, en fait ? Parce que... Déjà, pourquoi les fables, en fait ? Bon, même s'il y avait eu les Guerriers du silence, mais du coup, pourquoi les fables ? D'où vient le projet ? Parce qu'on sait qu'effectivement, un éditeur peut, par exemple, être le pourvoyeur du projet et puis l'entremetteur du couple, hein, je dirais. Mais du coup, dans ce cas-là, comment ça s'est passé, en fait ?
Bon, voilà, je vais en parler, hein, puisqu'en fait, c'est... Moi, en fait, c'est un ami commun qui m'a donné un des livres, qui me tannait avec Pierre. Lis Pierre, lis bordage. Puis moi, à l'époque, j'étais plus SF américaine, bon, les grands anciens, Asimov, tout ça.
Les gens
mangent. On va arrêter avec ça. Je vois. Et donc, j'ai lu, et le livre qu'il m'a donné, c'était Les fables de l'homme pur. Et je l'ai dévoré. Ça a été le coup
de foudre. Veux dire qu'il t'aurait donné Wang, ça aurait été Wang.
Ah bah non, pas forcément. J'ai adoré ce livre. J'ai adoré ce livre et je l'ai lu pratiquement en une journée. Et j'ai appelé donc cet ami et il se trouvait qu'il avait les coordonnées de Pierre. Il m'a dit bah appelle-le et puis essaye. Et c'est comme ça que ça a démarré. J'ai appelé Pierre. Il m'a dit bah écoute, il voulait voir un peu ce que ça donnait au niveau dessin. Je lui ai envoyé des crobards, des dessins. A priori ça lui plaisait. Et puis après il y a eu la grosse aventure de trouver un éditeur.
Oui, et par exemple, pour le public, c'est pas parce qu'on a votre background que c'est plus facile, en fait. De placer un nouveau projet qui soit en dehors, je dirais, un petit peu des champs d'action de Pierre, par exemple.
Non, moi, je pense pas. Et encore moins maintenant. Hein, encore moins maintenant. Non. On peut avoir une vingtaine, une trentaine. Là, je suis dans une situation où j'ai 25 albums derrière moi et je suis en train de galérer. Et là, en ce moment, c'est hyper serré, quoi. Hyper serré. Enfin, on n'est pas là pour parler de ça. Parce que là on peut y être jusqu'à...
Ça va durer longtemps.
Hein, ouais, non, puis c'est vrai que c'est une scie. On en entend, tout le monde se plaint. On va arrêter avec ça. Donc, voilà. Donc, ça, c'est pour la genèse. Maintenant, si tu veux rajouter quelque chose, je ne sais pas. Non.
Comment tu réagis quand ton téléphone sonne et puis que tu as un dessinateur qui te propose un énième projet ? Parce que j'imagine que ce n'était peut-être pas le premier dessinateur qui te démarchait, entre guillemets.
J'ai eu plusieurs projets, effectivement, de gens, mais ce n'étaient pas des dessinateurs installés. Donc, c'est des gens qui cherchaient à publier ou à publier quelque chose. Et donc, ils me proposaient des projets sur Wang, par exemple, sur tout ça. Mais bon, ça n'a jamais abouti. Là, quand Olivier m'a appelé, Laurent m'avait dit, notre ami commun m'avait dit, ouais, et tout, ah bon, c'est un pro, alors moi j'étais impressionné, quoi. Et parce que j'avais jamais fait de BD, jamais de scénario BD, et puis j'étais un débutant complet, Donc j'ai demandé ses dessins et ses dessins m'ont plu et j'ai dit bah ouais, je vais essayer de tenter l'aventure de la bande dessinée. Donc adapter son propre livre, son roman en bande dessinée, c'est une galère pas possible. Parce que autant le roman c'est bavard, autant la bande dessinée c'est le dessinateur qui est bavard. Donc c'est lui qui fait les décors, c'est lui qui fait la description. Et surtout c'est un aspect. Il marche plus. Il faut vraiment parler dedans. Il faut mettre au fond de la gorge, l'aluette. C'est l'art elliptique. Et donc j'ai lu un monsieur qui s'appelle Scott McCloud. Qui explique comment fonctionne la BD en faisant une bande sous forme de bande dessinée lui-même, lui-même, je ne sais plus, bon, je suis fatigué là. Et je me suis rendu compte qu'effectivement, ce qui se passait, c'est que c'est du fixe, mais le lecteur reproduit le mouvement entre les cases, quoi. Donc il faut choisir les scènes fortes et tout ça. Donc c'est un vrai travail qui m'a appris l'ellipse. Et c'est assez difficile à mettre en place parce qu'on est obligé de sacrifier un tas de choses du roman, quoi. Le roman, c'est. Tout à l'heure j'ai entendu le mot quelqu'un qui est intelligent, quelqu'un qui est, je sais pas, sensible. Comment on rend ça en BD, quoi. Donc faut faire confiance énormément au dessinateur. Olivier avait beaucoup de métiers, donc j'étais un scénariste assez lâche. C'est-à-dire que je lui ai laissé quand même beaucoup de liberté parce que je savais qu'il assurait mieux, quoi. Ouais. Donc parce qu'on m'avait dit aussi, on m'a expliqué qu'il fallait être tyrannique avec les dessinateurs parce qu'ils prennent trop de liberté, et c'est insupportable. Et moi, j'ai tiré les noms. Et moi, j'ai trouvé que c'était bien parce que j'ai fait des propositions. Puis quand Olivier avait besoin de changer ou pour les besoins du dessin, de modifier un peu la suite de cases, j'étais tout à fait d'accord parce que je pense qu'il avait plus de métier que moi. Et ça m'a intéressé aussi sur le plan justement de l'ellipse. Ça m'a appris à être moins bavard, du coup. Parce que je pense que si je suis très bavard en roman, c'est parce que je ne fais pas confiance au lecteur, quelque part... Il n'est pas capable de reconstituer les choses et je lui donne.
Je pense qu'il y a des lecteurs dans la salle quand même.
Non, mais c'est bien quand même. Hein. Et j'ai moins peur de l'ellipse, c'est-à-dire de laisser le lecteur deviner ce qui se passe entre deux chapitres. Avant, j'ai tendance à un peu expliquer les choses. Donc ça m'a appris ça. Ça m'a appris la concision, ça m'a appris plein de choses et la confiance aussi au dessinateur, parce qu'il est capable de rendre une expression. Dans le roman, quand un personnage pense quelque chose, on est dans sa tête, donc on suit son cheminement, sa pensée. Dans la BD, non, on n'est pas dans sa tête, c'est le dessinateur qui fait la tête. Donc,
voilà. Ça t'a influencé, du coup, pour ton écriture suivante ?
Ah, je pense, je pense que dans les livres suivants, j'ai fait plus confiance au lecteur. C'est-à-dire, j'ai moins essayé de donner des choses pour de peur qu'il en manque, finalement. Qui me le reproche en me disant mais tu m'as pas dit ça et tout ça. C'est un travail qui est intéressant de voir comment, à partir d'un support déjà existant, le roman, on pouvait créer une autre forme de narration tout à fait différente. Et l'idéal, ce serait de le faire en cinéma maintenant pour voir aussi les différences avec le cinéma. Toutes les formes possibles imaginables, quoi. C'est intéressant parce que on voit comment l'histoire, on peut la raconter de façon tout à fait différente. Différentes portes pour raconter une histoire.
Et le découpage, tu vas aller jusqu'où en fait dans ton travail de scénarisation?
Je mettais case 1, il ne se passe pas ça, case 2, il ne se passe pas ça, dialogue à côté. C'était riche, c'est toi qui m'avais donné le modèle. Oui. Olivier m'avait donné le modèle de comment on faisait, parce que je ne savais pas.
Hérité du modèle de
Nolan. Voilà, je suis de l'école de Nolan, donc. J'ai une école très célèbre. Et j'ai découpé le cycle en quatre volumes qui correspondaient assez au découpage du livre, hein, je pense, de toute façon. J'ai essayé après, je savais qu'on avait 48 pages, c'est ça ? Oui. Donc j'ai essayé de te faire tenir le découpage en 48 pages de façon à ce que ce soit équilibré. Donc c'était un vrai travail que j'adorais faire en fait, hein. Mais même si c'était douloureux parce qu'il fallait que je zappe des pans entiers du roman. Le défi c'était un peu d'essayer de sauvegarder la richesse du monde, de l'univers. Il y a des petits sauts, des coupures. Stéréo. Voilà, c'était un travail très très intéressant et je pense que j'ai fourni à peu près à l'heure, hein, parce qu'il est rapide lui. Hein.
Et quand on réadapte, en découpant simplement de cette manière-là, enfin simplement, à un moment donné, tu n'as pas envie du coup de même de faire une suite ou de prolonger ou même voire de rajouter.
Il m'a proposé, mais j'avais pas envie. Si je repique à la BD, j'ai envie de faire un sujet pour la BD, c'est-à-dire de concevoir d'emblée pour la BD, c'est-à-dire vraiment un projet qui soit BD, bande dessinée. Vous savez, c'est une abréviation, un BD. Vous êtes au courant, je pense.
Comme disait Patrick Giger, l'illustration, c'est pas une histoire de BD.
Donc, ouais, voilà.
Lorsque, Olivier, quand tu as donc le projet, puisque du coup, tu découvres Pierre au travers de cette première lecture,
ouais.
Et quand il, entre guillemets, il valide la collaboration et vous partez là-dessus, tu n'as pas une espèce de pression quand tu découvres aussi ce qu'il y a derrière Pierre, quoi. C'est-à-dire, effectivement, tous les autres romans, les lecteurs aussi, qui forcément du coup t'attendait un peu au tournant quoi, en fait, en termes de représentation, parce que c'est quand même difficile de représenter par rapport au livre en fait. Ça veut dire que le livre a déjà eu une existence, a déjà eu une création dans l'imaginaire du lecteur, et toi t'es obligé de trancher dans le vif en imposant ta propre vision. Est-ce qu'il y avait déjà une appréhension en le faisant, et est-ce qu'ensuite il y a eu des retours de lecteurs en disant ton personnage je le voyais pas comme ça.
Je vais paraître prétentieux, mais j'ai eu. Oui, hein, on y va. Hein, c'est le moment ou jamais. Hein. En fait, non, j'ai pas eu cette pression au départ parce que j'étais tellement emballé, tellement content que ça se fasse, que j'étais complètement dans mon histoire, dans comment la monter le mieux possible. Bon, la chose la plus importante dans cette histoire, ça a été de ces chimères, ces personnages mi-hommes, mi-animaux, c'est de leur garder l'animalité, mais aussi de leur donner une humanité. Donc ça se retransmet surtout dans les visages, dans les attitudes humaines qu'on peut donner à un animal. Donc ça, c'était le challenge vraiment important dans cette histoire. Et bon, de transcrire aussi toute la profondeur du récit, bien sûr. Je veux dire que ça, c'était pour moi, parce que j'avais jamais trop dessiné d'animaux. Donc, je me suis vachement documenté sur toutes les catégories d'animaux qui apparaissent dans le livre. Sur toutes les catégories qui apparaissent. Donc, en fait, oui, j'ai pas eu trop la pression d'adapter les fables au départ, quoi. Pour la deuxième question, j'ai eu des retours. Et en général, ils étaient plutôt, c'était plutôt des compliments. C'est-à-dire que ça correspondait assez à la vision qu'avaient les gens en lisant le livre. Donc ça m'a ravi aussi, bien sûr. J'étais très content. Parce que l'opération était a priori réussie, quoi.
Et alors, le choix de la couverture ?
De la couverture, c'est moi qui propose des... Mais on a eu des problèmes, quand même. Enfin, des problèmes. Il y a eu des tractations et des marchandages. Parce qu'au départ, je devais ne pas faire la couverture.
Oui, parce que au début de l'intervention, on parlait donc du premier couple éditeur-auteur-dessinateur. Donc, quand l'auteur et le dessinateur sont la même personne. Donc, il y a le couple à trois avec l'éditeur, l'auteur, enfin le scénariste et le dessinateur ou la dessinatrice. Mais il y a, et souvent chez Soleil, des couples à cinq, voire six, quand il y a la mise en couleur d'un côté, le dessinateur qui fait la couverture, qui a encore quelqu'un d'autre. Des fois, par exemple, comme pour série B, où ils sont même deux à faire la couverture. Donc là, du coup, ça fait, je vous laisse imaginer, ne mettrai pas de terme sur cette espèce d'orgie autour d'un album, mais ça fait quand même beaucoup de monde pour qu'un album puisse sortir. Par exemple. Et du coup, voilà, au départ, il te proposait un autre illustrateur pour la couverture, disant c'est pas ton job.
Moi, j'étais outré, quoi, parce que je veux dire, j'ai toujours réalisé les couvertures de tous mes albums, et j'arrivais pas à concevoir qu'on puisse, surtout là-dessus, surtout pour un projet auquel je tenais tant. Donc j'ai dû batailler dur. J'ai eu de la chance que la directrice de collection avait des projets avec un graphiste qui l'a lâché. Et donc moi, j'ai réattaqué de plus belle, je l'ai bombardé de couvrantes, d'essais et tout, et elle a cédé. Donc j'ai pu... il faut dire aussi que dans cette série, dans cette collection, normalement, tous les albums étaient faits par des illustrateurs et pas par les dessinateurs. Hein. Donc moi le seul qui ai dérogé à la règle. Et j'en suis bien content.
Oui, il y a Didier Graffé, il y a pas mal de couvertures comme ça.
Et donc après, j'ai proposé la même chose. Hein. J'ai proposé des couves et ils ont choisi. Et puis ils ont pris. Il y a eu pour le dernier, le quatrième, tu avais réagi aussi parce que j'avais choisi les dinosaures, les T-Rex. Et c'est vrai que là j'ai accepté. C'était une erreur de ma part de mettre ça. Ça faisait un peu marchand-vendeur. Ça correspondait pas vraiment au roman. Donc on a. Ça faisait Jurassic Park, quoi. Ouais. Donc oui, parce que j'avais mis vraiment les tirés. Ouais, je trouvais que c'était des beaux plans et tout, mais ça correspondait pas vraiment au bouquin, quoi. Donc on a changé, on a mis quelque chose qui collait plus au récit, quoi.
Et alors une petite question pour tous les quatre, parce que dans votre couple à trois avec l'éditeur, j'ai quand même l'impression que c'est souvent l'éditeur qui est celui qui peut amener le conflit. Et entre vous, du coup, est-ce qu'il y a eu quelquefois des sources de conflit entre l'auteur et le dessinateur, ou juste une petite discussion et ça se règle tranquillement?
Non, mais il a été parfait. Hein. Il a été parfait. Il m'a laissé une paix royale. J'ai fait ce que j'ai voulu. Mais c'est vraiment la première fois que je travaille dans une si grande liberté, quoi. Je veux dire, là par contre, à un moment, ça m'a fait peur un peu, parce que je me disais, on y va, Bon, mais il y avait quand même le découpage, mais je changeais des cases, je respectais le texte quand même. Oui, t'as pas relu. En fait, oui, j'étais heureux comme un pape. Hein. J'ai fait ce que je voulais. Surtout qu'en plus, ça se prêtait complètement parce que c'est un monde qui est aussi post-apocalyptique, dans un futur très éloigné. Donc tout était à faire. Je veux dire, décors, costumes, les sites de tous les clans. Un vrai régal pour un dessinateur, quoi.
Anne-Catherine, donc pas de conflit?
Non, faut dire, après, chez notre premier éditeur, on a eu parfois des soucis. Donc Isabelle et moi, on était plutôt de nature à serrer les coudes, quoi, à faire front commun. Mais après, non, il n'y a pas eu de clash.
C'est arrivé qu'on ne soit pas d'accord sur des aspects artistiques, mais bon, on en discutait en adulte, en fait. Mais c'est ça, tu posais une question au début sur apprendre à se connaître et à faire un binôme. Moi, je pense une étape vraiment importante, c'est au moment où on commence à vouloir constituer un dossier, pas se contenter juste de j'adore ce que tu fais, moi aussi j'adore ce que tu fais, mais regarder vraiment comment on fonctionne en binôme et être capable d'avoir la maturité de se dire on s'apprécie, mais on apprécie notre travail, mais on pourra pas bosser ensemble, et sans qu'il y ait de l'ego qui vienne là-dedans. Ça m'est arrivé récemment avec un dessinateur dont j'adore le travail, et lui, il adore mon travail. On a essayé plusieurs fois de bosser ensemble, et juste, c'est pas possible. Mais on s'engueule pas, hein. C'est juste qu'on se court-circuit artistiquement. On a des méthodes qui font que ça ne peut pas marcher. Et c'est très rigolo, d'ailleurs, parce qu'on a fini par réussir à bosser ensemble, mais sur une commande d'un éditeur. Du coup, on était super contents de réussir enfin à partager nos univers sur quelque chose qui était moins personnel et qui nous demandait à nous de bosser déjà sur le projet de quelqu'un d'autre, de nous adapter. Et du coup, c'était chouette. Mais je pense que juste à partir du moment où on a bien mis les choses au point dès le début, où on a été capable d'être suffisamment adulte pour se dire si ça va pas, ça va pas, et c'est la faute de personne, c'est juste, c'est collaboration artistique, il faut qu'il y ait une petite étincelle, et voilà. Je pense qu'à partir du moment où ça s'est bien posé, même si on n'est pas d'accord sur un truc, on en parle, et puis on résout le problème, et ça se passe très bien. Mais bon, on n'a pas tellement de conflits avec Anne-Catherine, on s'inspire bien. Une chose sur laquelle elle m'a inspirée aussi, c'est Havre, sur Versipel, c'était un peu différent, mais Havre était très très noir au début, c'était vraiment du post-apocalyptique.
Des couleurs vachement claires finalement.
Ouais, mais t'avais des couleurs vachement claires, et aussi t'as mis, elle a une palette graphique assez large, et elle mettait, j'ai tendance à avoir des scénarios, pareil quand j'écris des romans, assez durs, mais avec des petites touches d'humour, et elle avait une façon tellement intéressante de mettre en scène ces petites touches d'humour que je trouve absolument géniale, parce que ça, dans ces univers super noirs, ça de mettre de l'humour, ça donnait une touche réaliste,
j'aime bien
organique.
Faire des trucs couillons, en fait.
Voilà. Et ça m'a vachement inspirée et ça m'a fait développer ça dans Havre plus que je l'aurais cru. Donc quand on avait des divergences par rapport, parce qu'elle a pu amener des choses divergentes par rapport à la vie que je... Enfin, différente de la vie que j'ai... Vision, je vais y arriver, que j'avais du bouquin, ça a plutôt été en général dans un sens positif comme ça.
Mais je pense que c'était inconscient. Je suis pas venu dire des trucs, c'est Isabelle qui a pioché dans ce que j'amenais. Du coup, moi, je me dis, c'est une bonne idée, mais forcément, si ça venait de moi, je pouvais que, voilà. Intérieurement, je me dis, j'aurais fait pareil.
Est-ce que si on parle un tout petit peu cuisine, en fait, au niveau de l'éditeur, parce qu'effectivement, là, ce que tu racontes, c'était, enfin, pour une fois qu'effectivement, l'éditeur, dans son rôle, entre guillemets, d'entremetteur, fait que ça fonctionne, et du coup, soit règle le conflit, soit ne permet même pas le conflit en vous imposant une commande ou enfin en faisant la commande. Des fois c'est un petit peu le contraire, puisque par exemple en roman, contractuellement, l'écrivain n'a pas le droit, entre guillemets, de choisir son illustrateur de couverture. Et ça l'éditeur, il n'aime pas trop que ça se fasse. Juste alors, pour parler quelques minutes de la cuisine interne, en fait. Donc un album à deux, un album à quatre mains. On dit souvent effectivement que qu'importe le dessinateur, il suffit d'une bonne histoire. Hein. En bande dessinée, on dit ça, donc je sais que ça va réveiller.
Il y a des gens qui vont dire l'inverse.
Mais comment est-ce que ça se traduit du point de vue de l'éditeur, par exemple, sur, si vous pouvez en parler un petit peu, des droits d'auteur? Sur les pourcentages, sur par exemple.
Alors, c'est surtout sur les avances sur droits que ça joue, plus que sur les droits d'auteur.
On a quand même deux cas différents, puisque là, c'est effectivement un projet que vous avez conçu à deux, en posant un dossier sur un texte, sur un projet BD original. Là, c'est une adaptation, entre guillemets, d'un roman existant. Donc, voilà, si on peut parler un tout petit peu de la cuisine de ce côté-là, en fait, comment ça se passe, et pour le public, en fait, voilà, comment. Oui, comment sont répartis entre guillemets les pourcentages ou au moins en représentation dans la tête de l'éditeur de l'importance du scénariste ou de l'auteur ou du dessinateur.
Alors, les droits, c'est 55. Enfin, les droits d'auteur, c'est 50-50 parce que enfin c'est notre création à 50-50. Bon, après, bon, j'imagine qu'il doit y avoir des variations, mais en général, c'est ça. Par contre, ce qui se passe, c'est que au moment de la conception de l'album, le dessinateur passe beaucoup plus de temps que le scénariste, donc faut qu'il mange.
J'ai besoin de plus de sous.
Et en général, le truc classique, en BD, parfois en roman, mais c'est pas toujours le cas, on a ce qu'on appelle une avance sur droit. C'est-à-dire qu'on est payé pour faire l'album. Après, avec les ventes de nos livres, on rembourse cette avance. Qu'on la rembourse ou pas, elle nous est due. Mais si on la rembourse, on commence à toucher les droits à 50-50. En général, ce qui se passe, c'est que au niveau de cette avance, il y en a deux tiers pour le dessinateur, un tiers pour le scénariste. Grosso modo, hein, après chacun sa soupe. Hein. Oui. Mais et après, il arrive qu'aussi, mais bon, ça c'est de la cuisine de contrat. Il arrive que jusqu'à un certain nombre d'albums vendus, le dessinateur touche un peu plus, comme il a une plus grosse avance à rembourser, il touche un peu plus de droits d'auteur que le scénariste pour pouvoir rembourser son avance plus vite. Mais au final, ça revient à 50-50 sur les droits d'auteur. Après, je ne sais pas, dans le cas d'une adaptation sur quelqu'un qui est déjà auteur de best-seller, je ne sais pas comment ça se passe. Mais...
Ça a fonctionné. Enfin, nous, on a fonctionné comme ça aussi. Hein. Mmh. Ouais,
c'est classique. Après, il y a des petites variations de pourcentage.
On peut passer à quelques questions, puisqu'il nous reste 10 petites minutes. Si vous voulez, n'hésitez pas à nous interrompre pour poser des questions. Profitez-en. Non ? Bon, on va attendre... la digestion, et puis on va y revenir. Si on parle un petit peu projet, Anne-Catherine, vous avez...
déjà à finir Versipel. et puis, bon, disons que moi, j'ai eu un début d'année compliqué, donc il y a des choses que j'aurais dû entamer avant, en principe, et j'aurais déjà dû finir le tome 2. Et on a un projet de feuilleton fantastique avec Isabelle. Ce serait en numérique. Donc, bon, voilà, ça se met en place, quoi.
Et ce serait bilingue, ce serait écrit en français et en anglais. Et on a déjà un éditeur intéressé pour ça, mais ça demande un très gros travail de préparation.
Le support numérique, enfin tout ça, de
support numérique, en utilisant justement tout support numérique. Et sinon, moi, j'écris des romans aussi et des bandes dessinées, encore.
À propos de l'épisode, c'est une parution de quel ordre
On voulait faire un épisode par semaine, mais enfin, on voulait les écrire bien en avance. Je ne sais pas si vous avez lu la bande dessinée qui s'appelle Les Autres Gens.
À l'époque, c'était en prépublication sur Le Monde, je crois.
Ça avait un site, ensuite ils ont été publiés. Il y a une spin-off qui a été publiée sur Le Monde, après il y a une adaptation livre. Mais en fait, bon, ça a été le pionnier de la BD numérique qui utilisait justement tout le potentiel du numérique pour travailler la mise en scène, narration. Merci. Ouais. Et donc c'est un peu, ce serait un abonnement et pour avoir une histoire par semaine. Et idéalement un petit épisode bonus peut-être avec des auteurs invités, mais ça dépendrait aussi du succès de la chose, voilà. Et en anglais et en français au même rythme.
D'accord, donc le binôme continue.
Bon, de toute façon, et puis si c'est pas ça, ce sera sûrement
autre
chose.
Elle arrive à rameuter deux dessinateurs, j'essaie des trucs avec d'autres scénaristes mais ça marche pas forcément, quoi, donc j'ai pas de bol.
Et Pierre et Olivier? Donc Olivier, peut-être que si tu continues à lire Pierre, tu vas peut-être vouloir adapter tous les
oui,
autres.
Oui, non, mais j'aimerais bien qu'il me fasse un scénario original. j'ai déjà tanné, je continue à le tanner de temps en temps quand je le vois. Bon, sinon, moi, je suis sur un one-shot là, sur Matahari, pour Rue de Sèvres, et j'ai un projet que je suis en train de défendre, mais là, c'est perso, c'est une histoire perso.
Auteur-dessinateur.
Ouais. Mais donc, auteur, je suis en train de rencontrer.
A priori, pas de conflit.
Non, pas vraiment. Entre moi, quoique. Comme dirait un bon vieux schizo que je connais. mais là, c'est là où je disais, je me rends compte que même si on a effectivement un peu de bouteille, c'est pas facile. Hein, c'est pas facile. Mais bon, bah, comme pour les fables, je m'accroche.
Et donc, Pierre, cette expérience, t'as pas.
Faut arrêter la bouteille.
Donné envie d'arrêter.
Ça fait longtemps que c'est arrêté.
Ben, j'ai beaucoup de projets, donc j'ai la faiblesse d'accepter beaucoup de choses. Donc voilà, il faut que je dégage un peu de temps parce que j'ai vraiment envie quand même d'essayer de faire un scénario original de bande dessinée, de travailler pour la BD avec ses codes à elle, d'emblée. Donc je vais essayer de trouver un peu de temps pour proposer quelque chose, science-fiction peut-être.
Yes.
Yes. Tu aimes dessiner les vaisseaux ?
On est témoins.
Et les femmes nues dans les vaisseaux ?
Ah, moi.
Bon, voilà, donc bah, c'est tout est ouvert. C'est juste des histoires de temps. J'ai je sais pas, une sorte de montagne de livres à écrire, là, parce que j'ai pas mal de projets. Donc, ça prend du temps. Le problème du roman, c'est que ça prend énormément de temps, parce qu'on est sa propre interface, quoi. C'est-à-dire que tout est dans l'écriture. Enfin, je ne sais pas si Isabelle a vu la différence entre l'écriture de BD et de roman.
Complètement. Ouais. Et puis donc, le roman, c'est un truc tout bête. C'est qu'en BD, si on fait la moindre erreur narrative, bon, même sur 90 planches, ça reste que 90 planches. En roman, il y a intérêt à avoir une concentration quand même de tous les instants, parce que si tu te plantes sur un moment clé narratif, si tu as oublié de poser un truc dont tu avais besoin, comme tout est lié, tout s'enchaîne. Bon courage.
Ouais, puis c'est vrai que le lecteur est suspendu à la seule écriture. Dans la BD, il y a le support du dessin, parce que je pense que le dessin est le plus important en BD, finalement, parce que c'est le premier coup d'œil. C'est ce qui attire la couverture de la couverture, c'est le dessin. Donc, moi, je pense que dans la BD, c'est bien normal que le dessinateur soit payé plus, enfin, à mon avis, au moins pour l'avance. Il y a vraiment un travail de.
Tu entends, Olivier ?
Pardon ?
Tu entends ?
Non, mais.
J'ai entendu plus longtemps.
Oui, je suis pas trop con. je me contredis pas. J'essaie de pas me contredire.
Je ne voudrais pas dire
l'autre. Non. Voilà.
Et alors une petite question perso, est-ce que tous ces projets te laissent le temps de peindre ?
Peu. Il faut que ce soit une sorte de crise où je laisse tout tomber, je fais de la peinture, et je me rends compte que je suis mauvais finalement. Et
du coup, ça te remotive pour l'écriture.
Je barbouille mes couleurs et tout, je suis content. Puis à un moment après, il y a une sorte de principe de réalité qui se remet en place. Mais j'adore ça, en fait, à la peinture, mais je dois reconnaître que c'est quand même pas mon univers. Je suis plus à l'aise avec le mot, finalement. Mais de temps en temps, ça me fait du bien. Donc, voilà. Là, bon, j'ai eu cette sorte de délire l'été dernier. Ça s'est un peu calmé, parce que, du coup, beaucoup d'éditeurs m'ont appelé en disant « T'avais pas promis un livre ?» Ah, mais oui, c'est vrai. C'était quoi mon métier, déjà ? Ah oui, auteur. Alors, bon, bah, j'y m'y remets, alors. Et voilà, c'est... J'ai plein de projets, mais je désespère pas avoir trouvé le temps, Olivier, de te faire proposer un scénario. Mais je te laisse finir d'abord tes 3 ou 4 BD d'avance. Et puis...
Oui, c'est ça.
Bon, ben, merci à vous en tous les cas. Donc s'il n'y a pas de questions, ben, on va libérer tous ces héros. Ah, il y a une question. Yes.
Ouais.
On en a eu un.
C'est moi qui avais parlé de ça, j'étais persuadée que c'était bien. bah, en fait, moi, ce qu'il y a, c'est que tous mes récits sont énormément basés sur les personnages. Donc, en fait, je travaille énormément mes personnages en amont, je prends pas forcément de notes, mais avant de me mettre à écrire, je les ai énormément, énormément travaillés. Autant les univers, je laisse beaucoup de marge, autant les personnages, je les connais très, très bien. Et je vais, quand je contacte le dessinateur, je donne des grands traits de caractère. Bon, je donne des traits physiques si je veux, mais en général, c'est un peu plus vague. Je vais par exemple dire, il est pas spécialement beau, mais il a de la gueule. Ça va plutôt de cet ordre-là.
Faut qu'il ait du charme.
Voilà, ou alors au contraire, hein, mais c'est parce que c'est vrai que il a de la gueule, je le sors souvent. Ouais.
Des trucs bien nébuleux, tu fais démerde-toi, ok.
Mais du coup, je pense que par contre, je donne quand même des grands traits de caractère importants, mais je pense quand même ce qui se passe, c'est comme j'ai beaucoup travaillé mes personnages en amont, je pense que dans la manière dont je fais les dialogues, le caractère est assez palpable. J'espère. Ouais, beaucoup dans les dialogues. Ouais, c'est pas forcément visuellement. Et en tout cas, j'ai déjà travaillé avec des dessinateurs qui avaient des styles auxquels je pensais pas forcément en amont pour ce livre. Et en général, j'ai toujours retrouvé le personnage, à peu près le personnage que j'avais en tête. Même physiquement, je trouvais qu'il ressemblait à l'image que j'avais. Donc, on va dire que je dois pas être trop dégueulasse sur mes dialogues pour laisser entendre quel est le personnage.
Mais il y a des exceptions. Enfin, en tout cas, dans nos collaborations où parfois, y a des graphismes qui ont préexisté au personnage, par exemple, la jeunesse de Versipel. Enfin, pourquoi on a fait ce projet toutes les deux, c'est qu'en premier lieu, pendant que je finissais Havre, je faisais des petites récréations et j'avais fait une petite nénette, une rouquine un peu lookée viking, qui se traînait une espèce de petit troll derrière elle. Et Isabelle, elle fait « Ah, ça donne envie de te faire des histoires de vikings ». Je fais « Vas-y ». Et du coup, graphiquement, c'est le personnage de la Loknir, Randy, la jeune fille que je décrivais. Voilà. Donc, et puis, pareil pour la fin du premier tome de Havre, j'avais fait cette petite troupe d'astronomes et finalement les personnages se sont glissés un petit peu dans ces graphismes, mais c'était très succinct. C'est des personnages qu'on voit de très loin, mais il y a les silhouettes, il y a les types d'âge.
Et les personnages ont pris plus d'importance que je l'aurais imaginé dans le scénario du fait que je me suis inspirée. J'ai eu aussi c'était intéressant. Je m'en suis aperçue d'un point de vue scénaristique, mais je me suis inspirée de son dessin pour ça.
Donc ça marche dans les deux sens, en fait.
Vos inspirations mutuelles vont continuer à nous enchanter. Donc je vous remercie de cette petite heure passée en votre compagnie. Merci à toi, Pierre, de nous avoir accordé de ton temps. Et merci à tous d'être là. Mais non, c'est pas vrai. Je rêve. Bon, merci à tous. On va laisser la place à la suivante.